Europe 1, Philippe Googler.
Tous les jours sur Europe 1, des voyages. On aime bien partir comme ça, tout oublier, se laisser aller. À partir de 17h, dans pas très longtemps, nous allons faire un voyage exceptionnel, aller dans l'Afrique qui ressemble à l'Afrique des rêves. Vous savez, cette Afrique de la vie sauvage avec des réserves gigantesques. Il y a notamment une réserve naturelle qui s'appelle la réserve du Selous, qui est grande comme la Suisse, je ne sais pas si vous imaginez. Et au milieu de tout ça, des animaux fantastiques. C'est un pays merveilleux, c'est la Tanzanie. Mais là, tout de suite, nous sommes dans le Tarn, toujours à la découverte de cette région qu'on sous-estime vraiment, et dont la capitale, Jean-Bernard Carrier, est vraiment exceptionnelle. C'est la ville rouge, Albi.
Albi, la fascinante. Albi, la majestueuse. Albi, la séductrice. Albi, l'envoûtante.
Oui, mais dis donc.
Oh là, ouais, c'est chaud.
Voilà l'effet qu'elle m'a fait. Je l'ai arpentée dans tous les sens, cette ville. Elle est vraiment à l'image du département. Elle gagne à être connue. Elle est restée dans l'ombre de Toulouse. C'est un petit peu ça le problème. Vous avez dit, elle est sous-estimée. Elle est tellement plus intimiste que Toulouse. Alors, je ne vais pas me mettre à dos tous les Toulousains, mais c'est vrai que Albi a ce cachet très fort qui se dégage. Alors, on n'a pas le temps de faire un grand tour de ville. On va aller directement à l'essentiel. L'essentiel, c'est bien sûr la cathédrale Sainte-Cécile, la plus grande cathédrale de briques au monde, 113 mètres de long, qui surplombe le Tarn. De l'extérieur, on dirait un vrai château fort. Il y a un aspect, il faut dire, quand même un peu militaire, assez austère, on dirait vraiment une forteresse. Mmh. C'est pas vraiment le style des cathédrales que l'on connaît au nord de la Loire, hein. C'est pas Chartres avec tous les ornements à l'extérieur. En revanche, quand on entre à l'intérieur de cette cathédrale, c'est un changement complet d'atmosphère. Des peintures splendides dans la voûte qui est colorée dans les tons bleus et dorés. Des fresques immenses, dont une représentation du jugement dernier, avec le ciel, la terre et l'enfer et les sept péchés capitaux. J'avais l'impression d'être en face d'une fabuleuse bande dessinée, une œuvre de science-fiction. Sept péchés capitaux, Nathalie, lequel serait le vôtre d'ailleurs?
La nourriture.
Je pensais plutôt la luxure,
non,
mais bon.
Ça rime, hein. Si vous voulez, oui. Ça rime.
En revanche, pour Emmanuel, ce serait plutôt la gourmandise, non?
Oui, c'est
voilà.
Vrai.
Bon. Je continue mon petit tour de l'intérieur.
Moi, j'ai droit à rien.
Vous êtes parfait, Philippe, vous n'avez pas de péché.
Vous n'êtes pas un pêcheur.
Vous n'avez pas un faillot, plutôt.
C'est un péché aussi, d'ailleurs. Je continue mon petit tour de cet intérieur de cathédrale. Elle se compose de deux parties, la nef. Et surtout, elle est séparée du chœur par un petit mur en pierre, en calcaire. Et ce chœur, là où se réunissaient les chanoines, il est tellement beau, tellement impressionnant avec ses hautes stalles de bois. Les stalles sont des grandes chaises en bois. Ça respire l'ornementation. On a l'impression d'être dans un film d'Umberto Eco, Le Nom de la Rose. On a l'impression qu'ils vont tous arriver ici et tenir leur conciliabule, leur tractation autour de la vie de la paroisse. Ça, c'est fascinant. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être dans cet univers très profond. Et c'est pas fini. Autour du chœur, il y a 200 statues. 200 statues de hauteur d'homme. Elles sont tellement détaillées dans les vêtements, les traits des visages, les plis de la peau. On dirait qu'elles vont s'animer comme des gros jouets. C'en était presque oppressant.
Ah, vous la décrivez bien, parce que moi je l'ai visité, tableau. C'est vrai que c'est très impressionnant, et là je revis
non,
la cathédrale.
Absolument.
Mais il y a un côté fabuleux et oppressant, que je trouve bizarre dans cette cathédrale.
Et grandiose,
voilà, bien sûr, grandiose, ouais.
Et alors, on est dedans, on n'a plus envie d'en sortir. juste à côté de la cathédrale, il y a un petit musée que vous avez aimé.
Bah oui, Philippe, il y a un musée qui est magnifique. C'est le fameux musée Toulouse-Lautrec, qui est dans le palais de la Berbie. C'est la plus importante collection d'œuvres au monde du fameux Toulouse-Lautrec. Nathalie, vous en avez parlé. Je crois que vous avez des choses à dire un petit peu sur Toulouse-Lautrec.
Ah bah oui, je vais retourner du côté de ma chère luxure, hein, parce que Toulouse-Lautrec avait une certaine réputation avec les femmes. Il était très porté sur le sexe. Il avait beaucoup de maîtresses venues de son univers, c'est-à-dire le monde du spectacle et des arts, et surtout un nombre incalculable de filles débordelles parce qu'elles étaient ses muses pour ses toiles. Hein ? Il les aime parce qu'elles rient, elles bougent, elles sont vivantes et elles l'aimaient aussi. D'ailleurs, elle lui avait trouvé un gentil petit diminutif. Vous savez comment elle l'appelait, les filles débordelles ? Notre Toulouse-Lautrec ?
Le courju, non ?
Non, on n'est pas très loin, vous allez voir. Elle l'appelait la cafetière, parce qu'il avait un sexe disproportionné par rapport à sa petite taille. Je rappelle qu'il était atteint d'une maladie rare, issue de la consanguinité de ses parents, donc il était presque nain, malheureusement.
Oui. Bah, dis donc.
J'ai pas cassé l'ambiance, non ?
Non, on va retourner dans la cathédrale, je pense. Je pense qu'on va retourner dans la cathédrale. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe ? On retourne dans la cathédrale ou on va dans une autre région ? Vous êtes assommé.
Non, d'autres aspects peut-être de cette région magnifique.
Alors, dans le nord du département, il y a une région que j'adore. Ça s'appelle le Ségala. Là encore, c'est pas très connu. Ça n'a rien à voir avec le publicitaire, évidemment. Vous en doutez bien. C'est le Ségala de Tarnais. C'est très champêtre. Des collines, des rondeurs, tout ce que vous aimez, Philippe. Et soudain, au milieu de ce paysage rural, émerge la ville de Carmo. Changement complet d'ambiance et d'époque. On est au siècle dernier, au temps des mines de charbon avec Jaurès qui harangue les foules. C'est à Carmo, tout ça. L'histoire de France est jouée dans cette ville d'histoire ouvrière. C'est la fin de l'extraction charbonnière, malheureusement, en 1997. On perçoit encore toute la nostalgie de cette époque quand on chemine dans les rues de Carmo. J'ai adoré cette ambiance-là. Mmh. Alors, évidemment, la ville de Carmo essaye un petit peu de valoriser ce patrimoine-là avec un site qui s'appelle Cap Découverte, à la sortie de la ville. C'est là qu'était la plus grande mine de charbon à ciel ouvert d'Europe. Un cratère, imaginez-vous, d'un kilomètre de diamètre. On a l'impression qu'il y a une météorite qui a creusé ce trou. Et aujourd'hui, on y a aménagé des espaces de jeux, des tyroliennes, des parcours VTT, des jeux aquatiques et même un site pour se baigner. Il y a même une plage, figurez-vous.
Super. Et pour les bons vivants, quand on aime bien la bonne chair.
Alors, sans hésitation, il faut aller du côté de Gaillac, une magnifique région viticole. Hein, Emmanuel, ça doit vous parler. Ça. Il y a plein de petits coteaux recouverts de vignes, une ambiance très goulayante, comme je les aime bien. Et surtout, de très, très belles maisons d'hôtes. La ville de Gaillac elle-même, au bord du Tarn, a beaucoup de charme. Il y a beaucoup d'hôtels particuliers, des portes sculptées. Vous voulez peut-être dire quelque chose sur le vin, justement, le fameux vin de Gaillac.
Moi, j'aime beaucoup ce vin. Il y a toutes les couleurs, blanc, rosé, rouge. Et il y a aussi le vin perlé.
Oui, ils appellent ça un vin effervescent, semble-t-il.
Mes souvenirs sont bons. Juste une petite attaque comme ça. Voilà, c'est ça. Et on le boit très frais.
Vous faites bien, Philippe.
Non, mais c'est ça, sur la langue au début. Et puis, en fait, on le boit très frais en ce moment. Comme il fait chaud, c'est super. Un beau Gaillac perlé, l'apéritif, c'est super.
Je crois qu'il y a même quelques vins doux aussi.
Ah, bien sûr. Ah oui, les Gaillac doux. Très, très bon.
Donc, c'est une région du bon vivre. C'est une région
avec un fromage persillé.
Jean-Bernard, si on a envie de petits villages perdus, adorables, mignons, il y a ça aussi.
Il y en a un qu'il ne faut pas manquer, évidemment, c'est Cordes-sur-Ciel, l'un des plus beaux villages de France. C'est la poupée Barbie du tourisme dans le Tarn. C'est une cité médiévale sortie tout droit d'un conte de fées, à l'abri des remparts, qui est vraiment bâtie sur un piton rocheux. Elle s'enroule autour d'un piton rocheux, à l'intérieur des ruelles pavées, plein d'hôtels particuliers. Évidemment, il y a beaucoup d'artistes qui sont installés là, donc il y a plein de galeries d'art, des ateliers d'artisans. Mmh. C'est un petit Saint-Paul-de-Vence, si vous voyez ce que je veux dire, version tarnaise. À ne pas manquer. Ouais. Voilà.
Et tout ça, c'est dans le Tarn.
On
sous-estime le Tarn, il faut le dire.
Je suis content que dans cette émission, nous fassions la promotion et la valorisation de tous les espaces sous-estimés en France, dont le Tarn.
Et alors, je tiens à préciser quand même que nous ne parlons pas des gorges du Tarn, mais c'est un débat difficile entre nous, mais nous avons tranché. Nous ne parlons pas des gorges du Tarn, la partie la plus populaire.
Voilà, parce la que partie la plus touristique.
Ouais. C'est pas dans le département du Tarn.
Non. C'est vers la Lozère en fait, l'Aveyron et la Lozère.
D'accord.
Voilà. Mais c'est pas dans le Tarn. Voilà.
C'est pas dans le Tarn. Surtout pas. C'est magnifique et ce sera l'objet d'une autre émission parce que les gorges du Tarn, c'est tout simplement une féerie, un spectacle et c'est un endroit que j'adore.